à Éphésiens chapitre 4. Donc j'ai intitulé mon message, alors peut-être ça vous a surpris si vous avez regardé sur le site, il est dans le bulletin, « Les trois marques d'une église imparfaite ». Les trois marques d'une église imparfaite. Alors je vais lire Éphésiens 4, d'accord ? Les premiers 16 versets. « Paul écrit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés, à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Alors, en fait, pour reprendre un petit peu l'intro, ça fait quelque temps que nous voulions faire le point sur les différents ministères qui existent dans l'Église pour permettre aux uns et aux autres de possiblement être interpellés et de considérer servir dans un ou plusieurs ministères. Et en réfléchissant, comme je viens de le dire, un texte a repris. Et donc j'ai intitulé ce message, un titre un petit peu surprenant, « Les trois marques d'une église imparfaite ». Alors c'est un drôle de titre, d'accord, mais j'ai fait exprès. Parce que je pense que peu d'églises, et la nôtre inclus, je dis bien la nôtre inclus, atteignent ce que devrait être l'idéal d'une église comme le Seigneur veut qu'elle soit. Mais, et ça c'est la bonne nouvelle, on y travaille. On y travaille. Donc j'ai décidé d'examiner ce texte de la perspective de l'amélioration qui devrait être apportée à toute église qui aspire à être une église biblique. Alors certains de vous, vous le savez, j'étais pendant 16 ans l'aumônier du Genève Servette Hockey Club. Alors c'est quoi un aumônier ? Un aumônier, vous savez, chaque joueur il a une bouteille d'eau. Alors moi, quand on m'a posé cette question, j'ai dit simplement, moi je suis la dernière bouteille d'eau, c'est la bouteille d'eau spirituelle. Si un des joueurs veut de l'aide ou quelque chose, ben moi je suis cette bouteille qui peut venir, à laquelle il peut venir boire. D'accord ? Alors certains venaient, s'ils avaient des problèmes ou autres, ils voulaient juste discuter avec quelqu'un de plus ou moins neutre. Et alors, pendant ces 16 années, au niveau du hockey, j'ai vu des bonnes saisons et j'ai aussi vu des mauvaises saisons. J'ai vu des bonnes équipes et j'ai vu des mauvaises équipes. Alors, je ne suis pas un pro du hockey du tout. Hein. C'est une des raisons qu'ils m'ont demandé de venir. Ben, j'aurais dit, écoutez, non, ils m'ont demandé d'être l'aumônier. J'ai dit, mais non, vous êtes un mauvais gars, je ne suis pas du tout intéressé par le hockey. Ils ont dit, parfait. Et ils voulaient un gars non intéressé au hockey pour aumôniser les hockeyeurs. Je ne sais pas comment on dit ça, d'accord ? Alors bref, je me suis posé la question cette semaine, quels sont les traits d'une mauvaise équipe de hockey ? Alors moi, j'ai trois, alors il y en a beaucoup, hein, je pense. Mais moi, il y a trois traits qui m'ont frappé. Premièrement,
L'individualisme. L'individualisme. Un bon joueur, parce qu'il y a des excellents joueurs, hein, il y a toujours des joueurs qui sont au-dessus du lot, pourrait se dire, et ça je l'ai vu, je suis une star. Je suis le meilleur. Je viens de tel ou tel pays qui est pro du hockey. Et je pense donc qu'à moi, ma carrière, ma gloire, et je ne pense pas du tout aux autres joueurs de l'équipe. En fait, les autres joueurs sont là pour me faire briller. Et donc, il y a une sorte de manque de considération des autres. C'est le premier trait d'une mauvaise équipe, je pense. Deuxième trait, querelle. Querelle intérieure de l'équipe. Vous dites quoi? Mais non, mais les équipes de hockey, ils n'ont pas de querelle. Non, mais t'as l'air. Les joueurs de hockey, ce sont des gens comme vous et moi. Ils ont des bons jours et ils ont des mauvais jours. Et oui, parfois, dans une équipe qui paraît tellement bien unie sur la glace, il peut y avoir de monstres conflits. Entre joueurs, mais aussi entre joueurs et coach, il y a des conflits, ça arrive. Il y a un manque d'unité. Et ça, mes amis, c'est mortel pour une équipe. Manque d'unité. Et peut-être vous pensez à d'autres sports que vous connaissez mieux, c'est pareil. Il faut de l'unité. Et troisième trait, je pense, qui fait une mauvaise équipe, c'est l'égoïsme. C'est un petit peu comme le premier point. Mais en fait, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas prêt à sacrifier pour l'équipe. On n'est pas prêt à sacrifier ou se sacrifier pour les autres. On se sert que soi-même. Et on ne sert pas l'équipe à la capacité de notre propre talent. Et ça, ça crée des problèmes dans une équipe. Alors, on pense à l'équipe de hockey, Genève Servette Hockey Club. Ben, ça m'a fait un petit peu penser aux églises, voire notre église. Et justement, Éphésiens 4 nous décrit les trois marques d'une église parfaite, mais moi, je le tourne à l'envers et je me dis, ben, alors, quelles sont les marques d'une église imparfaite? Imparfaite? Quelles sont les défaillances qui peuvent se trouver dans une église qui fait qu'elle galère, elle a des problèmes. Alors je pense qu'il y en a pas mal, mais nous on va regarder que trois, d'accord? Que trois. Alors regardez le contexte. Chapitre 4 d'Éphésiens, verset 1. Paul écrit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » C'est important de savoir aussi que cette lettre d'Éphèse allait être consacré à l'église d'Éphèse et ensuite se répandrait dans toutes les autres églises, d'accord? C'était un petit peu comme ça que ça se faisait avec les épîtres. Donc il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, de quoi parle-t-il ici, Paul? Il parle de notre vocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il est en train de décrire ce qu'il vient de dire pendant trois chapitres. Il y a six chapitres dans Éphésiens. Les premiers trois chapitres, c'est le côté théologique qui décrit ce qu'est un chrétien. Et les trois derniers chapitres, 4, 5, 6, décrit le côté pratique de ce que fait un chrétien. Et donc la vocation céleste dont il est question au verset 1, c'est ça, c'est cette description qu'il vient de donner dans les premiers trois chapitres sur notre salut. Et si vous regardez, on fait un rapide survol, chapitre 3, par exemple, un chrétien, d'accord, vous vous dites chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on est béni, verset 3, béni soit le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc on est béni. Deuxièmement, on est élu. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ensuite, on est prédestiné. Au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Au verset 7a, nous sommes rachetés. En lui, nous avons la rédemption. Et ensuite, au verset B du verset 7b, nous sommes pardonné, nous avons le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. Au verset 11, regardez, nous sommes héritiers, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant son plan. Ensuite, nous sommes scellés au verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Chapitre 2, verset 1, nous étions morts, vous qui étiez morts par vos offenses, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. On a été ressuscités, verset 6, il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Et le verset 8, il nous a sauvés car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Donc ça c'est rapidement la description du chrétien ici. Et en fait, au chapitre 2, verset 19, ça continue, nous sommes maintenant, il nous a fait citoyens des cieux. Regardez verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Et le chapitre 3, verset 6, très important, nous formons un seul corps. Regardez verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors ça, c'était le côté radical de l'Église à l'époque, c'est que les juifs et les païens, qui ne s'entendaient pas, hein, les juifs ne parlaient pas aux païens, ben maintenant ils sont réunis ensemble sous la croix de Jésus-Christ pour former encore l'Église. Et verset 18 du chapitre 3, en plus, nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Ben oui, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Alors voici très brièvement ce qu'est la vocation du chrétien du chapitre 1 à 3. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Alors quel est le résultat? À un moment donné, Christ t'a appelé, t'as répondu oui, et tu es devenu né de nouveau. Tu es devenu un chrétien, né de nouveau. Alors, à ce moment-là, ta vie a changé, ou elle a commencé à changer. Et ça, c'est ce que va décrire maintenant les chapitres 4 à 6. Comment pratiquement un chrétien marche? Comment marche-t-il digne de cette vocation? Alors, c'est intéressant que dans le chapitre 4, là, il commence toute cette description très pratique. Eh bien, sans jamais utiliser le mot « église », qu'on retrouve dans le chapitre 1, verset 22, dans le chapitre 2, verset 19, le mot « église » est utilisé, mais ici, il ne l'utilise pas. Paul conclut qu'une des premières choses que les hommes sauvés vont vouloir faire, c'est de se réunir entre eux. Ils vont vouloir se réunir entre eux, créer des groupes et s'encourager mutuellement dans leur foi. Donc un chrétien, il a de la peine à rester tout seul. Il doit être avec d'autres chrétiens. C'est pour ça qu'on se réunit les dimanches matins, les études bibliques, les réunions de prière. On aime être ensemble parce que ça nous encourage et on loue le Seigneur ensemble. Ça, c'est automatique. Un chrétien veut faire ça. C'est ce qu'il dit ici. Ces groupes sont ce que la Bible appelle les églises. Et donc, en fait, ce qu'il fait ici, c'est qu'il va nous donner les marques d'une église florissante. Mais nous, on va voir très vite que c'est un idéal. C'est à quoi nous devrions aspirer et travailler en tant qu'Église, mais la réalité, malheureusement, est très différente que cela, que l'idéal. Et de ce fait, en constatant les difficultés que nous avons de mettre ces choses en pratique, c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Les trois marques d'une Église imparfaite ». Alors, bien sûr, le but de nous encourager. Alors, quelles sont ces trois marques? Alors, il y en a plus, d'accord, mais ici, il y en a trois qui ressortent très clairement. La première marque d'une Église imparfaite, une défaillance d'amour. Une défaillance d'amour. Verset 2. Il dit, « En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Alors je pense que l'idée centrale du verset 2, c'est bien l'amour. Si j'ai de l'amour, je vais être humble, doux et patient. Alors c'est quoi l'humilité? Mais pour comprendre l'humilité, décrivons ce qu'est l'orgueil. Voici une bonne définition. L'orgueil, avoir une estime de soi-même démesurée, assistée d'insolence et d'un traitement inconvenant des autres. Donc je crois mieux que les autres et donc je réduis les autres quelque part. Alors, c'est intéressant. Quel est l'antidote de l'orgueil? Comment est-ce qu'on devient humble? Bonne question, vous ne trouvez pas? Eh bien, je crois que Romains 12, 3 nous donne la réponse. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Comment on devient humble? En décidant de l'être. Voilà. C'est une décision, un choix. Alors on peut avoir plein de dons, plein de choses que Dieu nous a données, mais on peut choisir d'être humble. C'est ce qu'il dit ici. Ensuite, douceur. C'est quoi la douceur? Caractère de ce qui n'est pas extrême, excessif, brusque ou discontinu, sans brutalité. C'est un comportement doux et affectueux. Alors, ça ne veut pas dire être mou. Hein. Quelqu'un qui est mou, c'est quelqu'un... Non, d'être doux, c'est, comme ils disent, hein, c'est un gant en velours, une main en... Comment on dit ça? une main de fer dans un gant de velours. Voilà la douceur. On est doux, mais quand il faut, d'accord, on comprend, d'accord. Mais on le fait en douceur, d'accord, avec le sourire et tout. Et patience, ben c'est quelqu'un qui endure des circonstances sans exploser. Alors, il y a des gens, il y a des circonstances qui deviennent vraiment négatives, pètent un plomb, ils explosent. Là, non, la patience, c'est dire, ah non, bon, alors c'est très très compliqué, j'ai vraiment envie d'exploser, mais j'explose pas. Je maintiens le cap. Donc je reste humble, doux et patient. Et là, regardez verset 2, vous supportant les autres avec amour. Alors bien sûr, le mot amour ici, c'est le mot agapé, c'est le mot clé amour dans la Bible qui parle de celui qui sacrifie pour aimer. C'est pas que j'aime quelqu'un parce qu'il est aimable, c'est justement je sacrifie pour quelqu'un peut-être qui n'est pas aimable. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, vous le savez très bien, dans Romains 5:8, où il est dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour agapé envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'étions pas aimables, mais il nous a quand même aimés. » C'est ça la clé. C'est ça la clé. Et donc, nous devons faire pareil. Nous, on connaît Jean 3:16, mais 1 Jean 3:16, c'est très intéressant, il dit ceci, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, on peut facilement dire, oui, moi je vais donner ma vie pour quelqu'un. Oui, d'accord, mais est-ce que tu es prêt à l'aimer dans les petites choses de la vie? Parce que c'est très rare qu'on est appelé à donner notre vie vraiment pour quelqu'un. D'accord? Mais écoutez, dans ce verset 2, il y a une phrase incroyable. Moi, ça m'a fait mon frère titre. Regardez. En toute humilité, douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Non, mais c'est quand même intéressant cette petite phrase, vous ne trouvez pas? Le sens littéral du mot supportant veut dire supporter, soutenir, tenir fermement quelqu'un, porter. Il peut y avoir l'idée d'endurer, de supporter avec courage. Donc l'amour agapé, c'est l'amour de sacrifice de soi qui donne à l'autre sans calculer le prix et continuellement. Et alors bien sûr, le comble de cet amour, c'est ce que Jésus donne dans Matthieu 5, 43, où il dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Waouh ! Alors là, vous dites, ouais, c'est plus compliqué ça. D'aimer quelqu'un d'aimable, c'est facile. D'aimer un ennemi, c'est très compliqué. Voilà ce qu'est l'amour biblique. C'est d'aimer ceux qui ne sont peut-être pas aimables. C'est ça qui crée la révolution, en fait, dans l'amour chrétien. Alors, dans l'Église, pensons à l'Église. Moi, je pensais justement au fait que juifs et païens sont mis ensemble. Ils se haïssaient hors de l'Église. Tout d'un coup, tac, ils sont chrétiens, ils sont dans l'Église, vous devez vous aimer. Non, mais c'est super compliqué, quoi. Quand toute ta vie, on t'a appris de détester, de haïr les païens ou les juifs, tout d'un coup, non, maintenant, il faut vous aimer. Qu'en Christ, on peut faire ça? Et oui, dans l'Église, qu'est-ce qui nous réunit? Écoutez, ce qui nous réunit, nous tous, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui nous réunit. Donc on pourrait avoir des grandes différences entre nous. Et ça pourrait même être compliqué, des tensions, des trucs. Il y a plein de choses qui pourraient faire que... Ah oui, mais c'est vrai qu'on est en Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui peuvent nous irriter, imaginez, sans pour autant pécher contre nous. Des habitudes, des manières d'être, des trucs, des machins. Il y a plein de trucs qui pourraient nous irriter. Ils n'ont pas péché contre nous. Nous les supportons avec amour, avec humilité, avec douceur, avec patience. Ou c'est peut-être vous qui devez être supporté, ou peut-être moi. On doit se supporter les uns les autres. Parce qu'on a tous nos problèmes. Par contre, il peut y aussi avoir des chrétiens qui pêchent contre nous. Alors là, il faut les confronter. Mais ça aussi, on le fait avec amour, avec patience, humilité, et douceur. Alors pourquoi est-ce que Paul utilise cette phrase? Vous supportant les uns les autres avec amour. Mais moi je veux dire pourquoi. Parce que c'est difficile d'aimer. C'est vraiment difficile d'aimer. Pourquoi? Parce que nous sommes de nature égoïste. On veut être servi. On n'a pas envie de servir les autres, on a envie de se servir soi-même et être servi par les autres. Ça c'est le top. Ça c'est ce qu'on aime. Non, l'amour de ce type n'est pas naturel. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais ce genre d'amour, c'est un don que Dieu nous donne au moment de notre conversion. Romains 5, 8 nous le dit comme ceci, excusez-moi, 5:5, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, lorsque je viens à Christ, je reçois un don de Dieu parmi beaucoup de dons, c'est la capacité d'aimer les autres comme lui m'a aimé. C'est pour ça que l'Église devrait être révolutionnaire dans ce domaine. Et oui, cet amour devrait être tellement révolutionnaire que Jésus a dit dans Jean 13, écoutez, 35, à ceci, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc c'est ce qu'il a dit, moi je vous ai aimé comment ? Ben, je me sacrifiais pour vous, donc faites pareil pour les autres. Verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Écoutez, cet amour devrait, hein, c'est pour ça que j'ai dit tout ça au conditionnel, devrait être tellement radical que les gens nous regardent et se disent « Waouh, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'EIG ?» Les gens s'aiment qu'on n'a jamais vu ça de notre vie. Ils sacrifient les uns pour les autres, ils sont là, ils sont ensemble, mais ils s'aiment. Vous dites « Ouais, mais concrètement, comment on aime comme ça ?» Mais écoutez, il y a l'exemple suprême. Vous vous rappelez Jean 13. Je vais lire le premier verset, vous allez reconnaître. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer dans le monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu, qui s'en allait de Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Non, mais allez voir. Jésus, le maître, prend la place d'un esclave et lave les pieds des disciples. Alors, on la connaît tous, cette illustration. Elle fait mal. Parce que c'est dur de faire ça. Et certaines églises le font littéralement. Ils ont décidé que ça ferait partie de leur culte. Donc là, ils font la Sainte-Seine, ils font le lavement des pieds aussi. Parce qu'il dira plus tard, je vous ai lavé les pieds, verset 14, faites pareil. Alors ils le prennent littéralement. Nous, on dit qu'il y a un symbole ici. Il y a tout un symbole parce qu'il parle entre ces deux versets à Pierre par rapport à la confession de péché. Mais le but est, c'est que Jésus a démontré comment aimer ici. Comment aimer ici? Alors, vous savez, il y a quelques semaines en arrière, il y a Vincent Bourrel qui était ici, il a donné un message incroyable sur l'hospitalité. Vous vous rappelez? Si vous étiez là, ça c'est une manière pratique d'aimer. Inviter les gens, peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'inviter. Peut-être une visite de personnes dans le besoin. Peut-être quelqu'un qui est dans un besoin financier, de les aider. Prendre du temps pour rencontrer et prier avec quelqu'un. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et nous, on est une église de ville, c'est encore plus compliqué parce qu'on est éparpillé partout. Donc il faut faire un effort, il faut prendre des rendez-vous. Alors, pensez à une personne dans l'église. Que vous dites, tiens, là, j'ai besoin de faire quelque chose envers cette personne. Pensez à une personne. L'inviter, l'aider, un coup de téléphone, un email, quelque chose, pour leur montrer votre amour. Puis cette semaine, vous pourriez le faire. Écoutez, il y a quelqu'un cette semaine, samedi dernier, qui nous a appelé vers les 10h du matin. Quelqu'un dans l'église nous a dit « Écoutez, John et Meg, on s'est levé ce matin et on a décidé qu'on a envie de venir boire un café chez vous aujourd'hui. » On a dit « Ah ouais ? Ouais, on aimerait venir cet après-midi prendre un café chez vous. On s'invite. » On a dit « Super !» Ils sont venus, ils ont passé une heure chez nous, on a discuté avec eux, c'était génial. Et c'est eux qui ont pris l'initiative. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Est-ce que vous êtes déjà invité chez quelqu'un ? Essayons cette semaine. Vous appelez quelqu'un, on lui dit « Est-ce que je peux venir chez toi ?» Garantie qu'ils vont dire « Ah, trop bien, super !» Voilà. Le premier problème, comment dire, première marque d'une église imparfaite, manque d'amour. Alors je me pose la question, comment est-ce qu'on est nous dans ce domaine-là ? Comment est-ce que ça va ? Probablement défaillant. Deuxième marque d'une église imparfaite, une défaillance d'unité. d'unité. Verset 3. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité et l'esprit par le lien de la paix, s'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Waouh! Alors moi je dis ça, moi je dis ceci. Ça c'est le rêve de tout pasteur et de toute église. L'unité. Avoir une unité parfaite comme elle est décrite ici. Ça devrait être en effet le résultat logique de l'amour, de l'humilité, la douceur et la patience. Si on faisait tous les versets 1 et 2, ben le verset 3, techniquement, ça devrait marcher. Si tout le monde s'aime de cette manière, nous devrions être unis. C'est comme un mariage. C'est un mariage. C'est un homme et une femme mariés. Le mari, imaginez, il aime et il sert sa femme. Et la femme aime et sert son mari. Ah, j'irai très bien. C'est pas compliqué. Si on se sert et on s'aime et on se pardonne, ça marche. Mais lorsqu'un ou l'autre arrête d'aimer et commence à critiquer et faire des demandes irréalistes, il y aura rupture. C'est pareil dans une église en fait. Alors regardez, il y a un petit mot super important encore qu'on voit au verset 3. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Vous efforçant, c'est très intéressant, de conserver l'unité. Alors, ma première réaction, c'est de dire, ah mince, c'est dommage qu'il ait là ce mot. Non, c'est pas dommage, c'est qu'il est réaliste ce mot. Il est réaliste. Le mot veut dire s'efforcer, hâter. Un effort clair et net à mettre en œuvre ici. Mais oui, c'est le même mot que Paul, par exemple, utilise dans 2 Timothée 2,15. Lorsqu'il parle de l'étude de la parole de Dieu, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un évrouillé qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la vérité. » Donc, c'est intéressant, le même boulot que ça demande. Si vous avez déjà enseigné une étude biblique ou un sermon, vous savez le travail que ça demande. Ben, il dit que c'est le même travail, la même énergie pour conserver l'unité. Dans 2 Timothée 4,9, il dit aussi, alors c'est le même mot, viens au plus tôt. Il dit, dépêche-toi, efforce-toi de venir ici me voir. Bref, c'est tous ces mots qui parlent d'un effort à déployer. Donc, ce qu'on apprend par ce mot, mes amis, écoutez bien ce que je vais dire, c'est que l'unité n'est ni automatique, ni naturelle. C'est exactement comme pour l'amour. Pourquoi ? Parce que nous sommes de nature égoïste. L'unité demande un immense effort avec malheureusement beaucoup de ratés. Et nous, on a connu des ratés dans notre église par rapport à ça, comme beaucoup d'églises. Mais regardez encore un autre mot vraiment intéressant. Au verset 3, c'est quoi le premier mot du verset ? Vous. Ouais. Vous efforçant. Alors, Paul écrit à qui ? Ben, aux chrétiens qui ont reçu la vocation, donc à tout chrétien, verset 1. Et il dit, vous chrétiens, vous quoi ? Efforcez-vous de conserver l'unité. Alors, c'est intéressant le mot, conserver l'unité, qui veut dire, je pense. Commencer l'unité, c'est facile. Créer l'unité, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est de le maintenir. Vous savez, nous, quand on a démarré l'église, l'unité, elle était automatique. Tout le monde était là, super. Et c'est avec le temps que les conflits peuvent surgir et qu'il faut apprendre à les traiter. C'est très compliqué, ça. Donc, l'unité, selon ce verset, est atteignable, mais super difficile à réaliser. Et ça, je crois qu'on le sait, parce que, par exemple, Hébreux 12, il y a l'autre verset qui en parle. Hein. Hébreux 12... 14 nous dit ceci, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. On doit le rechercher, mais ça implique de nouveau un effort. Ce n'est pas automatique. Romains 12, 18, peut-être vous le connaissez aussi ce verset-là. 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. De nouveau, il dit, Le but recherché, c'est la paix avec tout le monde, mais ce n'est pas toujours possible, c'est ce qu'il dit. Si c'est possible, autant que cela dépend de vous. Donc, vous, ça veut dire que chacun de nous, est-ce qu'on fait l'effort de vouloir vraiment conserver l'unité? C'est ce qu'il est en train de nous. Il est en train de pointer le doigt à chacun de nous, en fait. Alors, comment faire? Ben, je pense qu'on revient au verset 1, en marchant digne de notre vocation céleste. L'unité viendra lorsque chacun examine sa marche personnelle avec le Seigneur, veillant à sa vocation céleste, une marche d'humilité, de douceur, de patience, d'amour, autrement dit, une vie sanctifiée. Mais rien n'est garanti, comme on le voit, parce qu'il y a un effort à déployer. Et malheureusement, il y a beaucoup de ratés. Alors, est-ce que ça veut dire unité à tout prix? Non. Non. Non, la réponse, elle est simple. L'œcuménisme cherche à préserver l'unité en diminuant, en éliminant toutes les différences qui pourraient offusquer les uns et les autres. Mais ça, ce n'est pas l'unité chrétienne, ça. Non. Nous avons le dépôt qui est la parole de Dieu. Toute l'unité doit se faire autour du dépôt de la parole de Dieu. Donc, ça va peut-être demander une réelle réflexion théologique pour avoir l'unité et pour la maintenir, une vraie réflexion biblique qui doit être la base de toute unité authentique. Alors, résultat, le verset 3, le lien de la paix. Quand il y a l'unité, il y a la paix. Ça, c'est vrai. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la paix. Alors, dans les versets 4 à 6, Paul nous donne les raisons théologiques pour lesquelles nous devrions aspirer à cette unité. Les sept un, d'accord? Un seul corps, au verset 4. Bah, écoutez, il y a une église, l'église universelle, donc nous sommes encore à la base. Il y a un seul esprit, numéro 2. Bah, combien d'esprits y a-t-il? Il y en a un. En Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Donc il n'y a qu'un esprit, pourquoi est-ce qu'on serait divisé? C'est pas logique. Une seule espérance, donc il parle de notre gloire éternelle. Il y a combien de ciels? De ciel éternel avec Dieu. Un. On va tous au même endroit. Alors, si on va être tous unis là-haut, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas désunis ici? C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire. C'est pas logique. Il y a un seul Seigneur. Combien de Seigneurs y a-t-il? Un. Une seule foi. Jude 3 nous décrit la foi comme le corps de vérité. Alors, peut-être qu'on n'est pas tous d'accord avec la vérité, mais il y a combien de vérités là? Une. Si on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu assez bien pour être unis. Mais il y a qu'une seule vérité, on ne peut pas prendre un texte et dire « Oui, bon, il y a trois vérités là. Hein? » Ce texte veut dire A, B et C. Non, il veut dire A ou B ou C ou autre chose encore. Donc il n'y a qu'une unité. Le problème, c'est nous. On interprète mal parfois. Un seul baptême. Alors, ce que là, il parle de notre baptême d'eau ou le baptême dans le corps de Christ, je ne sais pas, mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est baptisé avec le Seigneur une fois. Un baptême. Et ensuite, il répète quelque part un seul Dieu. Deutéronome 6, 4 nous dit qu'il y a un seul Dieu. Donc, c'est vrai qu'à la lumière de ces 7-1, la division semble être vraiment un piège du diable. On se dit, mais Tamar, si on est unis en Christ, pourquoi on a tous ces problèmes? Pourquoi tellement d'églises ont été frappées par le problème de désunité? Mais écoutez, moi, ce qui m'encourage, mais me décourage en même temps, c'est que Paul, il fonde l'église à Corinthe. Deux ou trois ans plus tard, division dans l'église. Vous vous rappelez? C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Mais t'as, c'est une nouvelle église, elle est déjà en train d'éclater, c'est quand même incroyable. Fondée par l'apôtre Paul, c'est quand même pas rien. Même lui n'a pas pu éviter ces divisions dans l'église de Corinthe. Donc on voit que c'est vraiment compliqué. Les églises sont compliquées. Et on a vu ça, hein, puisque l'amour, c'est le lien qui devrait nous unir et qui devrait créer entre nous quelque chose de différent du monde. Moi, je pense que c'est un des trucs que Satan attaque le plus. Ah ouais, quel discrédit au monde. Je veux dire, vous n'aurez même pas à vous entendre dans votre propre église et vous prêchez l'amour. C'est vrai qu'on a un peu honte. Un peu honte. Je pense que Paul avait honte. Pourquoi il commence en Corinthiens avec les divisions? Peut-être parce que c'était le truc qui était le plus de honte. Ouais, c'est compliqué. Alors c'est quoi la clé? Ben, de marcher digne de notre vocation. Et rien n'est acquis. Alors le fait que même s'il y a des problèmes, c'est comme à Corinthe, il a dit continuez quand même. On persévère, on continue. Même C'est pour ça que je dis que c'est les traits d'une église imparfaite. Toutes les églises sont imparfaites. Ben oui, il y a des lacunes dans l'amour, elle a des lacunes dans l'unité. Bon, il y a une troisième défaillance. Vous êtes prêts? C'est une défaillance dans le service. Dans le service. C'est les versets 7 à 16. 7 à 16. Ouais, on voit dans ces versets, c'est très intéressant. Là, de nouveau, il est en train d'expliquer dans le corps de Christ, l'Église, qu'il devrait y avoir deux types de chrétiens actifs dans l'Église. Premièrement, il devrait y avoir des responsables actifs, et deuxièmement, des membres actifs. D'accord ? Alors, regardez les versets 8 à 11, ce sont en premier les responsables. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des défaillances, souvent, dans la manière qu'on sert. D'accord ? Et c'est intéressant, notre service, utiliser ce qu'on a pour servir le Seigneur, bah, c'est une manifestation de notre amour, bien sûr. Alors, quand il y a une défaillance au niveau de l'amour, il y a certainement une défaillance au niveau du service. Alors, regardons en premier au niveau des responsables. Des responsables. Alors, le contexte, c'est les versets 8 à 10. Je ne vais pas rentrer en détail. Vous pouvez aller sur le site. J'ai fait toute une série sur Éphésiens il y a quelques années en arrière. Et là, vous pouvez aller regarder tout le détail. Je vais vite faire un survol. Mais, donc, il est en train d'expliquer en premier d'où vient certains dons que Dieu donne. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, après être monté au ciel, Jésus a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre ? Entre sa mort et sa résurrection, Jésus est bien, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, nous dit Pierre aussi. D'accord ? Verset 10, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc ensuite, il est ressuscité, il est monté vers le Père, et le verset 10, et verset 11, et il a donné. Donc on apprend au verset 8 et au verset 11, qu'après la mort et la résurrection et le fait que Jésus soit monté au ciel, à ce moment-là, il a fait des dons aux hommes, il a donné des dons. Des dons spirituels. Alors, si vous êtes dans les principes fondamentaux de la foi, vous êtes des pros sur les dons spirituels parce qu'il y a une leçon consacrée aux dons spirituels. D'accord ? Alors, il y a ce que nous, on appelle les dons permanents. D'accord ? Ça, c'est des dons que Dieu donne aux chrétiens. Je les mentionne tout simplement. Prophétie, enseignement, foi, sagesse, connaissance, discernement, miséricorde, exhortation, libéralité, administration, aide et service. Ça, on les trouve dans Romains 12, 1 Corinthiens 12, 1 Pierre 4. Les dons spirituels que Dieu donne à chacun. Donc, si tu es chrétien aujourd'hui, que tu le saches ou pas, tu as reçu un ou plusieurs de ces dons déjà. Mais non seulement donne-t-il des dons spirituels aux chrétiens, il donne des personnes douées à l'Église. C'est deux choses différentes. Et ici, Paul met l'accent sur les personnes douées que Dieu donne à Joubi. Il y a aussi des dons, ce qu'on appelle nous des dons temporaires, miracles, guérison, langue et interprétation de langue. Mais ça, il faut regarder ça dans les PFR, d'accord ? Donc, il donne non seulement des dons, mais ensuite il donne des personnes doué, c'est une deuxième catégorie de dons. Et c'est ce qu'il maintenant va souligner au verset 11. Regardez. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc une fois que Jésus est monté au ciel, il a en premier donné des dons spirituels à tous les chrétiens. Mais ensuite, il donne des personnes douées à l'Église, des personnes qualifiées pour mener les églises locales. Il y a quatre groupes d'hommes. Premièrement, les apôtres. Apôtre veut dire envoyé. Et pour être apôtre, donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, voilà, je suis apôtre avec un petit a parce que je suis envoyé. Moi, je pense après ta confusion, parce qu'un apôtre avec les grands A, c'est les apôtres de Jésus. Et là, selon Actes 1, 22, il fallait avoir vu Jésus ressuscité pour être apôtre. Il a donné les apôtres. Et ensuite, il a donné des prophètes. Ceux qui parlent de la part de Dieu, prophétesse, d'accord ? Un enseignant si on veut. Parfois il y avait le côté futuriste, parfois pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans Éphésiens 2, 20, on a l'impression que ces deux catégories de personnes sont plus pour aujourd'hui. 2:20, il est dit, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'Église de Jésus-Christ a été fondée sur les apôtres et les prophètes. C'est le fondement. Mais une fois qu'on a un fondement, il n'y a plus besoin de fondement. Le fondement, il est déjà là. Donc, moi, je pense que apôtres et prophètes n'existent plus parce qu'ils ont eu leur rôle, la fondation, mais ils ont été remplacés par, regardez, les deux prochaines catégories, les autres comme évangélistes, verset 11, et les autres comme pasteurs et docteurs. Les évangélistes sont ceux qui proclament la bonne nouvelle aux inconvertis. Et les pasteurs-docteurs, littéralement berger, pasteur veut dire un berger, c'est le mot paître, c'est le mener un troupeau au champ pour qu'il mange. Pasteur-docteur enseignant, donc c'est l'idée d'instruire la parole de Dieu. Et moi je pense que c'est une personne qui est décrite ici, d'accord ? Pasteur-docteur. Et ce dernier terme décrit la fonction primaire du pasteur. Donc un pasteur c'est quoi ? Ben, il fait paître le troupeau. Comment est-ce qu'il le fait ? En enseignant. Pasteur, docteur. Donc, le pasteur amène son troupeau dans le champ de la parole de Dieu par le biais de l'enseignement. Donc, on a l'impression que Dieu ici donne à l'Église locale aujourd'hui deux groupes de personnes qualifiées, les évangélistes et les pasteurs, docteurs. Les évangélistes ont la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle pour amener des non-croyants au Seigneur. Et les pasteurs-docteurs ont la tâche primaire d'instruire ces chrétiens qui viennent dans l'Église pour qu'ils grandissent dans leur foi. Alors les pasteurs-docteurs devraient bien sûr travailler à la prédication et à l'enseignement. C'est dans 1 Timothée 5:17, il dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a vraiment une emphase sur la prédication et l'enseignement. Ils doivent, selon Tite 1, 7 et 9, exhorter et refuter. Selon Tite 1, 9, persuader. Selon 2 Corinthiens 8, 17, ils doivent plaider. Selon 1 Thessaloniciens 2, 11, ils doivent réconforter, toujours avec la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1, ils doivent encourager. Dans 2 Timothée 4, 2, ils doivent réviser les doctrines importantes et dans Matthieu 28, ainsi faire des disciples. Alors juste un mot intéressant, et ça c'est dans nos documents hein, quand on renouvelle les anciens dans l'Église. Trois termes en fait décrivent la même personne dans la Bible. Ancien parle de sa maturité, surveillant parle du fait qu'il surveille l'Église, et pasteur comme quoi il nourrit le troupeau. Et ces trois termes sont utilisés pour décrire un ancien dans la Bible. Donc tous les anciens dans une église sont aussi bien anciens que surveillants, que pasteurs. Donc nous, on a trois anciens. Les trois anciens sont anciens, surveillants et pasteurs. Donc vous pourriez appeler les trois anciens pasteurs, il n'y a aucun problème. Mais il est vrai que dans les églises type pastorales, comme la nôtre, donc les églises qui engagent un pasteur plein temps, donc ce sont des églises qui sont différentes des églises frères où il n'y a pas un pasteur plein temps, il est normatif dans le langage courant d'appeler celui qui est plein temps, donc il y a une vocation pastorale, comme on le dit, de l'appeler pasteur. Ce n'est pas différent de vous appeler, si vous êtes docteur, ben on dit vous êtes docteur, si vous êtes avocat, on dit vous êtes avocat, si vous êtes enseignant, on dit que vous êtes enseignant, quel que soit votre métier, on dit que vous êtes ce métier. Ben, pasteur, c'est un peu ça. On dit, ah ben ça, lui, c'est sa vocation, c'est son plein temps, il est pasteur. C'est comme ça qu'on le décrit d'habitude. Mais en vérité, il faut bien comprendre que tous les anciens sont des pasteurs et des surveillants. Donc ce qu'on apprend ici, mes amis, c'est que la grande partie du temps des pasteurs-docteurs devrait être dédiée à l'enseignement. Et peut-être, c'est une des failles de nos églises, peut-être qu'il n'y a tout simplement pas assez d'enseignement. Et peut-être souvent, et ça c'est ce qu'on voit souvent dans les églises, on engage un pasteur, ah ben lui c'est le plein temps, donc il fait tout. Moi, je le paye, lui fait tout le travail. Mais est-ce que c'est la juste perspective ? Non. Non, ça, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Lui, sa première responsabilité, ou leur première responsabilité, c'est l'enseignement. C'est de dispenser la parole de Dieu. Ça, ça devrait être la majorité de leur temps. Et c'est ce qu'on voit dans Actes 6:4. Actes 6:4. Hein. Vous vous rappelez quand ils ont trouver des diacres, ils ont dit au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, une église doit avoir des responsables actifs. Deuxièmement, ils doivent avoir des membres actifs. Alors, tenez-vous, ça va vite, mais c'est vraiment intéressant. D'accord ? Des membres actifs. Alors, on est de nouveau dans Éphésiens 4. Verset 8. Verset 12 plutôt. Regardez, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs docteurs. Alors, pourquoi ? Quel est leur but ? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ce qu'on va voir, mes amis, c'est que le ministère des pasteurs, docteurs et des évangélistes va avoir un effet sur l'Église, sur les membres. Il y en a 8. Premièrement, les membres seront perfectionnés. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Alors, vous êtes les saints, d'accord ? Alors, ça veut dire que la parole de Dieu me nourrit, me montre ce qui est juste et pas juste, et donc, au fur et à mesure que je prends les bonnes décisions conformes à la parole de Dieu, je deviens perfectionné. C'est ça la sanctification. C'est pour ça que c'est super important d'écouter des messages. Et avec tous les médias qu'on a aujourd'hui, c'est un crime de ne pas écouter plus de messages. Je faisais un petit calcul cette semaine, on a tous 168 heures par semaine. Si vous venez, vous écoutez un message par semaine, alors il vous reste 167 heures. C'est pas beaucoup. Donc oui, 160 c'est beaucoup, une heure c'est pas beaucoup. Vous commencez à faire le calcul de combien je suis nourri par la parole de Dieu, et peut-être je me dis, ah ben voilà, si je suis nourri peu, ben peut-être c'est pour ça que ma vie va peut-être pas comme elle devrait aller. Donc on voit ici, c'est très clair. Hein, pour le perfectionnement des saints, c'est la première chose que va faire la parole de Dieu, enseigner et prêcher. D'accord ? Jean 17, 17, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. Deux, les membres deviendront actifs, regardez, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Alors ça, c'est très intéressant. Qui fait le travail du ministère ici ? Ce n'est pas les évangélistes et ce n'est pas les pasteurs docteurs. Vous savez qui c'est ? C'est les saints. C'est les membres. C'est eux qui font le travail du ministère. L'œuvre du ministère. Et ce n'est pas du tout l'idée, « Ah, je paye le pasteur, c'est lui qui fait tout. » Non, c'est le contraire. On paye le pasteur, ou on paye les anciens pour qu'ils enseignent, pour qu'ils nous remplissent de la parole, pour qu'on devienne perfectionné et que nous, ah super, je suis plein maintenant, je veux servir. Je veux servir. Ils sont amenés au Seigneur par les évangélistes, nourris par les pasteurs docteurs et seront tellement remplis de la parole qu'ils n'auront aucun choix mais de vouloir servir. Oui, lorsque les pasteurs et les évangélistes, ou au contraire, évangélistes, pasteurs, docteurs font leur travail, eh bien, les membres vont spontanément vouloir s'activer et faire le travail du ministère. Trois, les membres seront édifiés, encore verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Littéralement, le mot veut dire construire, comme construire une maison. L'église va être construite. Quatre, les membres seront unis. Ah là, on revient. Verset 13, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est intéressant, hein ? Donc, l'enseignement et le service créent une sorte d'unité. 5, les membres sont matures, verset 13 encore, jusqu'à que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire qu'on devient mature, en fait. 6, les membres deviennent stables, verset 14. Ainsi ne seront plus les enfants flottants et emportés tout dans toute bonne doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Mais oui, il y aura une stabilité doctrinale. Et oui, une stabilité doctrinale, mais ça n'empêche pas que certains ne tiennent pas le coup doctrinalement. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que j'ai marqué ça, les trois marques d'une église imparfaite. Nous sommes imparfaits dans l'enseignement et nous sommes imparfaits dans toutes ces choses. Manque de stabilité doctrinale. 7, les membres seront aimants, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef et Christ. Et finalement, on deviendra coordonné, très intéressant le verset 16, car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que Christ est la tête de l'Église, elle est unie, donc elle est bien coordonnée, formant un solide assemblage, elle est participative, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Chacune des parties de l'Église est critique pour l'Église. Vous êtes critique, chacun. Et elle s'édifie dans l'amour, verset 16. Donc, c'est ce qu'on apprend ici. Verset 16, l'Église parfaite se voit par son unité, par son amour et par son service. Une Église imparfaite se voit par une défaillance de son amour, de son unité et de son service. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? C'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu a clairement marqué comment les choses devraient se passer. La prépondérance des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour dispenser la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas enseigner, mais c'est comme ça, disons, la responsabilité de l'enseignement vient là. Et ensuite, ceux qui reçoivent l'enseignement font le travail du ministère. Et si on fait ça, eh bien, on va de plus en plus arriver vers l'Église parfaite. Mais on n'y est pas encore, d'accord? Mais on devrait être parfait dans l'amour, parfait dans l'unité et parfait dans le service. Alors, entre-temps, on est tous réalistes. Il y a des défaillances dans l'amour, dans notre unité, dans notre service. Mais c'est super. Ça veut dire qu'on peut s'améliorer. C'est ça la clé. On va s'améliorer. Ça, c'est vraiment le but. Alors, ce matin, on voulait souligner l'aspect du service dans l'Église pour chacun et chacune. Et l'Église, en fait, c'est une affaire de tout le monde. D'accord? C'est nous. Nous, on est l'Église. Voilà comment Dieu nous a mis, nous, dans une Église locale. Nous, voilà. Ça, c'est nous. On est l'Église locale. Les gens, bien sûr, il y a quelques absents. Mais voilà, voilà, voilà le groupe dans lequel Dieu nous a placés. C'est intéressant. Voilà. Regardons-nous. D'accord? C'est nous. Nous sommes l'Église. On est notre église ici. Peut-être vous êtes visiteurs, super, vous êtes bienvenus, vous pouvez rester si vous voulez. Mais voilà, voilà le groupe qu'on est. Alors la question c'est, alors qu'est-ce que je fais? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un bon commencement. Amour, unité, service. Amour, unité, service. D'accord? Alors on va prendre encore, on a le temps, on a plein de temps là. Plein de temps pour Ruben. Alors on a des documents à vous donner. D'accord? On a créé des documents pour vous donner, juste sur une page, mais il y a trois pages en tout, d'accord? Vous allez voir l'Église devant vos yeux, avec tous les ministères dans l'Église, d'accord? Donc, vous allez voir ça, et Ruben va vous expliquer un petit peu. Alors, il n'y a aucune pression, on n'est pas du tout là pour mettre une pression, c'est juste pour vous informer de l'Église aujourd'hui, à quoi elle a l'air, et ensuite, de vous montrer les besoins qu'on a aujourd'hui pour que l'Église et les ministères qu'on a aujourd'hui tournent bien, d'accord? Alors de nouveau, pas de pression, c'est simplement, on met ça devant l'Église que nous sommes et on vous demande simplement de prier, de demander au Seigneur, tiens, qu'est-ce que tu veux de moi Seigneur? Comment est-ce que je peux appliquer ces trois choses en tant que membre de cette Église, dans l'amour, dans l'unité, dans le service?